Exploration des articulations. Peu importe la position de départ, commence à bouger doucement les orteils en observant comment ils s'articulent entre eux. Fais naître le mouvement comme une matière chaude et dense qui s'insinue entre les os. Essaie de percevoir le déroulement des surfaces de glissement. Bouge comme si c'était la première fois. Chaque détail, chaque millimètre est une absolue nouveauté. Laisse ensuite le mouvement se propager à l'avant-pied, avec les mouvements de torsion, le jeu des arches plantaires qui se creusent ou qui s'aplatissent. L'arche interne, l'arche externe, mais aussi l'arche antérieure. Visite ta cheville, ses différents axes de mouvement. Tu peux fléchir, étendre, mais aussi incliner, basculer sur le côté, et même chercher des rotations. Peux-tu percevoir le glissement des surfaces l'une sur l'autre ? Lorsque tu mobilises ton pied, peux-tu imaginer qu'il y a 32 articulations en jeu, 32 points de mobilité ? Un peu plus haut, au niveau de la jambe, l'espace entre le tibia et le péroné, ou la fibula. Là aussi, c'est un lieu d'articulation qui répond au mouvement de la cheville. Le pied qu'on appelle flex, appelons ça flexion dorsale, même si anatomiquement c'est une extension. Donc le pied flex entraîne une ascension, une rotation interne, une légère abduction du péroné. Donc l'air, il remonte et il se tourne légèrement dedans et il s'écarte légèrement. Tu pourras percevoir ce mouvement en posant tes doigts, le pouce sur la malléole du tibia, le majeur ou l'index sur la malléole du péroné, et effectue ce mouvement de flexion dorsale du pied. Tu vas sentir sous ton doigt, sous ton majeur, la poussée du péroné qui s'écarte légèrement. Tu peux aussi percevoir ces mouvements en allant trouver le péroné au niveau de son extrémité supérieure, la tête du péroné. Effectue les mouvements de flexion et extension de cheville et observe déjà comment ce péroné bouge. Va voir ensuite les genoux, il vaut mieux être assis pour ça. Essaie de mobiliser ton genou en essayant de ne pas trop en faire au niveau des hanches. Mets du volume, du lié dans la course du tibia autour du fémur. Comment est-ce que le tibia voyage autour des condyles du fémur ? Lorsque tu étends la jambe sur la cuisse, ton tibia voyage. Et puis passe aux hanches, c'est-à-dire au coxo-fémoral. Le jeu de la sphère du fémur dans la sphère en creux de la cavité cotyloïde, où est-ce que tu l'aperçois ? Il faut le penser au milieu du pli de l'aine, en profondeur. Un repère qui peut t'aider, c'est le battement de l'artère fémorale qui est juste en dedans de la tête du fémur. Allez, observe le jeu simultané des articulations du membre inférieur en mobilisant toute ta jambe. Laisse le mouvement courir d'un point à l'autre. Les orteils, le talon, le genou, le péroné, la coxo-fémorale. Et puis passons au bassin. Le bassin est concerné par 7 articulations. Les deux coxo-fémorales, la sacro-lombaire, mais aussi les deux sacro-iliaques, la symphyse pubienne, et la sacro-coccygienne. Tu peux mobiliser indirectement sacro-iliaque et symphyse. Pour les sacro-iliaques, là, il vaut mieux être sur le dos, jambes fléchies, pieds à plat dans le sol. Soulève alternativement une fesse, puis l'autre. Cela donne une sensation de torsion du bassin qui se joue au niveau des sacro-iliaques. Tu peux aussi les repérer en pressant seulement sur un pied, ce qui transmet la vague de pression en diagonale au niveau du bassin. L'appui du sacrum devient asymétrique. Si tu appuies à partir du pied droit, l'appui du sacrum se déplace vers l'épine iliaque postérieure gauche. En te mettant sur le côté, tu peux également mobiliser les sacro-iliaques. Le dos est légèrement enroulé, les jambes se recouvrent et forment deux angles droits, un angle droit entre la cuisse et le bassin et un angle droit au niveau des genoux. Explore la mouvance des sacro-iliaques en faisant glisser le genou du dessus au-delà de l'autre, comme si tu voulais allonger la cuisse, et puis à l'inverse en la raccourcissant. Alors attention, essaie de prendre le mouvement à partir du bassin, et plus précisément, si tu peux la repérer, depuis l'épine iliaque postérieure et supérieure, et non à partir des épaules ou du thorax. Peut-être que tu pourras sentir la symphyse pubienne. Tu la percevras mieux en revenant sur le dos et en reprenant le mouvement de poussée alternative à partir des pieds, à droite et à gauche, qui entraîne une torsion du bassin. Si tu poses la pulpe des doigts, majeur, index, en vis-à-vis sur la symphyse, tu la sentiras s'adapter. Plus haut, tu peux explorer le jeu des articulations entre les vertèbres. D'abord la zone lombo-sacrée, en enroulant et déroulant le bassin. Pour atteindre plus précisément les vertèbres lombaires, le mieux est de te mettre sur le côté ou à quatre pattes. Et centre-toi d'abord sur le mouvement de la troisième lombaire, celle du milieu, puisqu'il y en a cinq, qui est juste derrière le nombril. Essaie de rentrer et sortir le nombril, puis de le déplacer latéralement. Il faut se rappeler que les corps des vertèbres sont quasiment au milieu du volume du ventre, surtout la troisième lombaire, la clé de voûte de la lordose lombaire. Ce que tu touches derrière, ce sont les apophyses épineuses, ce sont des bras de levier. Au niveau dorsal, tu peux rouler sur toi-même, allongé au sol, pour sentir le jeu des côtes articulées devant avec le sternum, derrière avec les vertèbres. En posant tes mains tantôt sur le sternum, tantôt sur les côtes, tantôt sur les cartilages, c'est-à-dire les 8 à 10 cm sur le côté du sternum, tu peux éprouver l'élasticité de l'ensemble, ce qu'on appelle la compliance thoracique. Et centre-toi ensuite sur les clavicules, leur articulation avec le sternum à l'intérieur, avec l'omoplate à l'extérieur, ce qu'on appelle l'acromion, l'acromio-claviculaire. Observe comment l'omoplate se déplace dans ton mouvement. Localise aussi le jeu de la tête humérale. Trois travers de doigts sous l'acromion. Il y a souvent des confusions. Donc, dans le massif du deltoïde, différencie la tête humérale du lieu d'articulation entre acromion et clavicule, qui est la voûte osseuse qui coiffe l'épaule. Mets-toi à plat ventre en position du sphinx en appui sur les avant-bras et répartis le poids également sur toute la surface des mains et des avant-bras, du bout des doigts jusqu'au coude. Et reste un moment pour sentir ainsi le passage des appuis vers la tête humérale, l'omoplate, l'acromion, la clavicule, jusqu'à son articulation avec le sternum. En pressant ainsi le sol avec toute la surface de la pointe des doigts au coude, on peut ressentir la transmission des appuis jusqu'à la colonne vertébrale. L'appui voyage vers la tête humérale, de là il passe à l'omoplate, qui la transmet à la clavicule, qui elle-même la transmet au sternum, et de là la première côte, qui transmet à la première cervicale, au niveau du rachis. C'est un circuit assez complexe. Revient au jeu de l'omoplate, qui en un sens fait partie du membre supérieur. Le jeu de l'omoplate quand tu bouges ton bras. L'omoplate qui avance quand tu élèves le bras. Cherche aussi les autres articulations du bras successivement. Reviens à l'acromioclaviculaire. En posant la main sur cette jonction entre clavicule et omoplate, observe comment cela semble s'ouvrir lorsque tu portes le bras vers le haut, qui est en fait une flexion gléno-humérale. La glène, c'est la partie de l'omoplate qui reçoit la tête de l'humérus. On appelle ce mouvement aussi antépulsion du bras. Observe aussi comment la clavicule pivote sur elle-même pour accompagner ce mouvement. Si tu contraries cette rotation en tenant fortement la clavicule entre pouce et index, le mouvement te semblera pénible. Le bras pèse une tonne. Et s'il n'y a pas de différence, c'est que ta clavicule était sans doute bien bloquée. Accompagne la rotation de la clavicule en même temps que tu lèves le bras. Et observe ce que fait l'omoplate dans ce geste. Elle glisse sur le côté du thorax. C'est une autre sorte d'articulation, sans capsule ni ligament. C'est un glissement, l'omoplate sur les côtes. Reviens à nouveau à la tête humérale. Perçois-la dans la profondeur du deltoïde. Essaie de la sentir rouler lorsque tu effectues des rotations internes ou externes de ton bras. Et maintenant, suis le trajet de l'humérus. La transition avec l'avant-bras, c'est le coude. Trouve ce qu'on appelle la pointe du coude, qui est plutôt ronde, l'olécrane. De quel os est-ce qu'il s'agit? Si tu le suis, tu aboutiras à la styloïde latérale externe, c'est-à-dire du côté du petit doigt. C'est donc l'ulna qu'on appelait avant cubitus. Et reviens au coude. Et trouve la largeur de la palette humérale. Et observe comment l'olécrane voyage lorsque tu plies ou détends ton coude. Remarque que le coude étendu aligne les trois points que sont l'épicondyle, l'épitroclée et l'olécrane. Lorsque tu fléchis, l'olécrane voyage et les trois points deviennent un triangle. Cette simple observation te donne une idée du voyage de l'ulna autour de la trochlée humérale, et cela donne du volume à ton mouvement. Et repère aussi l'autre os de l'avant-bras, le radius. Comment est-ce qu'il bouge par rapport à l'ulna? Cherche trois travers de doigts en dessous de la ligne du coude, à l'avant, à l'intérieur. Tu rencontreras la tête radiale. Et observe qu'en général, c'est le radius qui bouge autour de l'ulna. Mais on peut bien sûr s'amuser à inverser ce rapport. Au niveau du poignet maintenant, tiens entre pouce et index les styloïdes radial et ulnaire, c'est-à-dire les malléoles du poignet, pour mobiliser ton poignet. Difficile d'isoler une seule articulation, bien sûr. Il y a là 7 petits os, ce qui représente 16 articulations, des micro-mouvements combinés qui remplissent l'espace entre les styloïdes et les têtes des métacarpes. Sachant cela, en posant la pulpe des doigts sur cet espace, imagine ce fourmillement lorsque tu bouges délicatement le poignet. Au niveau de la paume de ta main, au niveau des métacarpes, des articulations entre métacarpes et phalanges, où est-ce que tu situes le mouvement de tes doigts? Où commencent tes doigts? Si tu palpes, tu découvriras que nous avons les mains palmées, que l'articulation est plus en arrière que ce que l'on croit voir, La ligne de cœur sur la paume de la main correspond au pli de flexion de la première phalange par rapport au métacarpe. Or là encore, ce sont des mouvements complexes qui n'ont rien à voir avec les charnières que nous présentent les robots. Un doigt qui se fléchit effectue une spirale. Laisse les doigts se rejoindre en un mouvement global, comme les pétales d'une tulipe qui se referment. Tu verras qu'ils convergent vers un point central dans un mouvement spiralé. Essaye de différencier le jeu des phalanges, de percevoir le glissement des surfaces entre elles. Et observe maintenant comment tu perçois ton bras, quelle différence par rapport à l'autre, quelle sensation au repos, mais aussi dans le mouvement. Joue avec toutes les articulations de ton bras. Et revenons à l'épaule, et de là au cervical. Repère les deux épineuses saillantes à la base du cou, la première dorsale, surmontée de la septième cervicale. Lorsque tu tournes la tête, la cervicale voyage latéralement, tandis que la dorsale est fixe. Pour explorer les cervicales globalement, tu seras sans doute mieux sur le côté. Mets du jeu entre les épineuses, mais aussi entre les transverses. Ce sont les petites bosses osseuses sur le côté du cou, au milieu. Pose la pulpe des doigts dessus et écoute leurs mouvements lorsque tu redresses, enroules, inclines ou tournes le cou. Et cherche l'articulation entre le crâne et le cou. Pour ça, il faut localiser l'espace entre la mastoïde, cette bosse à la base du crâne, juste derrière l'oreille, et la branche montante de la mâchoire, la mandibule. Doucement, c'est une région délicate, vas-y avec la pulpe des majeurs. Ça peut être sensible, plus sensible d'un côté, ce qui signifie en général une première cervicale pas très bien ajustée. Précise l'articulation entre première cervicale et le crâne, qu'on appelle atloïdo-occipital. Et pour cela, effectue des petits oui. Est-ce que tu perçois le glissement de l'occiput sur cette première cervicale? Et si tu fais des petits non, observe que le mouvement a lieu à peine plus bas. C'est le jeu de C1 par rapport à C2. L'axis. Et pour dire peut-être, il faudra engager au moins les trois premières vertèbres. Différencie les mouvements du crâne par rapport au mouvement du cou par rapport aux épaules, des épaules par rapport aux côtes. Juste au-dessus de la première cervicale, sous le relief du petit lobule saillant à la base de l'oreille, qu'on appelle l'antitragus, tu sentiras rouler le condyle de l'articulation de la mâchoire, la temporomandibulaire. C'est un mouvement complexe, d'abord un glissement vers l'avant, puis un roulement. Est-ce que c'est symétrique? Est-ce que c'est égal des deux côtés? Tu peux faire des mouvements d'avancée, de translation, des mouvements asymétriques, essayer d'avancer une plutôt que l'autre. Il y a de quoi explorer. Et enfin, tu peux éprouver l'élasticité de ton crâne, pourquoi pas? Empaume largement avec tes deux mains la surface de ton crâne et exerce des pressions légères dans toutes les directions. C'est loin d'être un bloc rigide. Après ce bref passage en revue, bouge globalement pour sentir le jeu combiné de toutes ces articulations. Fais voyager des vagues en commençant par une articulation et en observant comment le mouvement se transmet vers les articulations adjacentes. On peut voyager d'un poignet à la cheville, d'un genou à la mâchoire. Prends le temps de repasser par tous ces lieux d'articulation.